L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Bien, ce matin, on va se pencher dans la parole de Dieu. On va tourner nos regards dans la parole de Dieu. Et le thème aujourd'hui, c'est « Revivre ». Avez-vous besoin de revivre? Amen. Alors, on va pencher nos têtes et on va remettre ce temps au Seigneur maintenant. Père éternel, on vient devant toi encore une fois. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier également, Seigneur, pour le temps qu'on a ensemble. Je veux te remercier aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, qui ont soif pour plus de toi. Seigneur, je veux te remercier pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous éclaire dans toute la vérité. Je te remercie aujourd'hui d'accorder des révélations de ta part à chaque personne, Seigneur Jésus. Je te remercie qu'on ne s'est pas déplacé pour rien, mais tu vas nous rencontrer, tu vas nous toucher aujourd'hui. Amen. Amen. Cette semaine, comme je priais, j'avais à cœur de vous parler de ce thème-là, revivre, que le Seigneur nous appelle en Église à revivre et à redécouvrir notre premier amour qu'on a. Vous savez, peut-être ça fait un certain moment que vous êtes sauvés, mais on veut entrer dans une nouvelle saison ensemble en tant qu'Église. On veut redécouvrir la grandeur de Dieu ensemble. Et ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Colossiens chapitre 1 et le verset 13 à 14. Il y a plusieurs choses que le Seigneur a déposées sur mon cœur pour nous. Et je crois, si on reçoit par la foi la parole de Dieu dans nos cœurs, nous allons tous progresser ensemble, mais pas simplement individuellement. Des fois, on peut prendre un choix pour progresser dans notre vie spirituelle, personnelle, et certainement ça commence là. Mais je crois également que le Seigneur veut nous faire progresser corporativement, ensemble, en Église, pour que le ciel soit plus présent dans cette place. Amen. Parce que nous vivons déjà des bons moments, mais Dieu veut nous offrir beaucoup plus dans sa présence. Le ciel, c'est glorieux, c'est merveilleux, et le ciel doit envahir notre louange. Le Seigneur veut nous visiter d'une façon tangible. Et quand on écoute des témoignages, on visionne des choses peut-être sur des DVD ou sur l'Internet, on entend toutes sortes de choses glorieuses qui se passent dans le monde, partout à travers le monde. Et on voit ces choses-là, puis on dit, wow, Dieu est grand en Afrique. Dieu est grand, peut-être en Chine ou peu importe les places où vous êtes impressionnés, vous voyez ces choses-là. Mais savez-vous, la seule différence entre eux et nous, c'est une question de soif spirituelle. Si on a vraiment soif et on se positionne dans cette soif pour recevoir du ciel ce qu'ils font, eux, bien nous aussi, nous allons vivre la même chose et encore plus. Et en fait, je dis la même chose, pas nécessairement exactement pareil, parce que Dieu agit différemment d'une place à l'autre, mais on va vivre le summum de la gloire de Dieu si on a soif. Mais c'est vraiment, vraiment une question de soif. Si nous sommes satisfaits avec le pain qu'on a aujourd'hui, bien Dieu va nous donner la manne qu'on a besoin. Mais si on dit, Seigneur, on veut beaucoup plus, on est avare, on veut plus encore, Seigneur, Dieu se réjouit de notre soif et il va nous donner encore plus. Mais c'est une question de notre cœur ce matin. C'est vraiment une question de notre cœur. Dans Colossiens chapitre 1 et le verset 13, il est écrit, en parlant de Christ, « Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Je vais le relire ici, ça dit « Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Et en tant que chrétien, on se réjouit parce qu'on se dit « Oui, on a été délivré, on ne marche plus dans les ténèbres, nous marchons dans la lumière. » Amen. Donc, on est tous contents de marcher dans la lumière. Et souvent, on s'est arrêté là et on dit « Bien, c'est merveilleux, je m'en vais au ciel. Un jour, si je meurs, bien, je vais aller au ciel. Si Jésus vient nous enlever, bien, je vais monter de cette façon. Mais de toute façon, je suis content parce qu'aujourd'hui, je marche dans la lumière et j'ai été délivré des ténèbres. » Et on se réjouit. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à étudier la parole de Dieu, ce qui est bien et merveilleux. Mais par la suite aussi, on commence à entrer dans un système d'études intellectuelles. Et c'est pas mal de le faire, mais après un bout de temps, on a vécu une touche de Dieu et on l'oublie. On oublie cette touche et là, on commence à marcher sur un chemin d'une recherche de Dieu, mais d'une façon simplement intellectuelle. Alors, on peut étudier des livres, on peut étudier des doctrines, et c'est bien de le faire. On étudie des choses. Dieu nous appelle à étudier la parole de Dieu. C'est correct. Le danger, par contre, c'est quand on commence à rechercher Dieu, mais simplement sur le plan intellectuel. Et là, on marche dans un système intellectuel, un système de croyance. Et au lieu de vivre une relation avec Dieu, au lieu de vivre une relation d'intimité avec celui qui nous a sauvés, qu'est-ce qui se passe? On commence à vivre, à juste connaître Dieu d'une façon intellectuelle au lieu de connaître Dieu d'une façon spirituelle. Et notre plus grand problème, là, que je peux voir parmi nous et peut-être partout à travers la francophonie, c'est qu'on a beaucoup connu Dieu sur le plan intellectuel et après un bout de temps, on devient desséché. On devient desséché et là, on se demande, mais comment ça je me sens comme ça? Bien, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur vous appelle à revivre l'expérience que vous avez vécue au début de votre vie chrétienne. Je vais relire le texte. Ça dit, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Il nous a transportés dans un royaume, enfants de Dieu. Dieu nous appelle à expérimenter le royaume de Dieu aujourd'hui. Donc, une des choses qu'on doit faire, on doit comprendre que ce n'est pas mal de vivre une expérience avec Dieu. Souvent, on dit aux gens, il ne faut pas être guidé par nos émotions, il ne faut pas être guidé par l'expérience. Et c'est vrai, on veut être guidé, conduit par son Saint-Esprit. Amen. On veut être conduit par son Saint-Esprit. Cependant, faut faire attention de ne pas se divorcer de nos émotions. Parce que quand Dieu nous a sauvés, il n'a pas sauvé seulement notre tête, mais Dieu a sauvé notre personne au complet. Amen. Et Dieu veut se manifester, pas juste intellectuellement. Oui, il veut qu'on comprenne des choses. Oui, il veut pas qu'on laisse notre porte à la tête de l'Église et puis dire, là, j'ai plus besoin de me servir de ma tête. Non. Mais le Seigneur, il veut nous parler, oui, dans notre tête, dans notre, mais complètement, il veut se manifester à nous complètement, à tous les niveaux dans notre vie. Amen. Là, on parle un petit peu, il nous a transportés dans un autre royaume. Donc, si on est dans un autre royaume, on va vivre des choses d'une façon différente, n'est-ce pas? Si vous habitez au Canada, vous allez vivre l'expérience des Canadiens. Si vous habitez en Haïti, bien, ça va être l'expérience en Haïti. Si vous êtes au Japon, votre expérience va être différente. Amen. Il va y avoir toutes sortes d'expériences qu'on va vivre. Mais là, nous sommes transportés dans le royaume de son Fils. Alors, on devrait vivre une expérience nouvelle, une expérience différente. Dans Romains 14, verset 17, ça nous parle du royaume de Dieu. Il est écrit, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la façon que Dieu opère, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dites par le Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça qu'on marche dans le royaume de Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 1 et le verset 17, ça dit, ou verset 16, ça dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. L'apôtre Paul, il nous dit ici, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, un autre système d'économie ici, dans le royaume de Dieu, on parle de la foi. Mais on va se stationner ici pendant quelques temps. On va juste relire ce texte-là. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu. Pour le salut, quand on parle du salut, on parle de la délivrance de toutes les choses de l'ennemi. Donc, pour cette délivrance complète, de quiconque croit. Si vous croyez aujourd'hui, le salut complet de Dieu est pour vous. Dites-vous, amen à ça ce matin. Mais on parle ici d'un royaume où il y a de la puissance, remarquez. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Au verset 17, parce qu'en lui est révélé, remarquez, en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi, elle est révélée par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce matin, je prie que vous soyez vraiment avec moi tout au long de l'enseignement. Parce que si vous êtes là, le Seigneur va vous donner des réma pour votre vie personnelle. Amen. Et quand je parle de réma, je parle ici d'une révélation personnelle pour votre vie. Je vais lire des textes, peut-être vous dites, ben ça fait longtemps que je connais ces textes-là, mais c'est justement ça notre problème. Nous connaissons souvent les textes dans notre tête, mais là, c'est le temps qu'on les vive en dedans de nous. Amen. Le Seigneur va faire des miracles ce matin parmi nous. Le plus grand miracle ici, là, autre que le salut, mais en fait, c'est une manifestation du salut. Qu'est-ce que je vous dis là aujourd'hui? C'est que vous allez recevoir dans votre esprit, quand lui, on vit cette révélation-là. En lui est révélée la justice de Dieu. Ça, c'est la façon que Dieu va opérer. Et c'est par la foi, pour la foi. Ensuite, Deutéronome 29, 29. On parle des choses révélées. En Christ, on reçoit cette révélation-là. Dans Deutéronome 29, 29, ça dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Donc, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Vous savez, aujourd'hui, ce que le Seigneur veut faire pour nous, il veut nous révéler plus de sa gloire. Si nous avons soif pour plus de la gloire de Dieu, plus de la présence tangible de Dieu, Dieu va nous accorder des révélations pour entrer dans cette dimension de la gloire de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais savez-vous, Dieu, il cache les choses précieuses. Dieu a beaucoup de grandes choses qu'il a en réserve pour vous personnellement. Dieu a personnellement des cadeaux de préparer pour votre vie spirituelle. Il a conçu des choses et une fois que vous allez découvrir ces choses-là, vous allez vous dire, mais comment ça j'ai vécu pendant 35 ans, pendant 20 ans, sans cette chose-là, sans avoir vécu l'expérience de la gloire de Dieu dans ma vie à ce niveau-là. Ces choses-là étaient cachées parce qu'elles étaient tellement précieuses. Et Dieu a attendu au moment où vous étiez prêts à recevoir son cadeau. Ce matin, on va parler des choses cachées. Et si vous êtes ouvert et si vous dites, Seigneur, moi, je veux recevoir tout ce que tu as en réserve pour moi, vous allez commencer à marcher dans une nouvelle direction dans votre vie chrétienne. Et ça va être merveilleux. Vous allez commencer à vivre que vous avez vraiment été transporté dans un nouveau royaume. Pendant longtemps, on a été transporté dans ce royaume d'une façon intellectuelle. On l'a reçu dans notre position en Christ et on s'est arrêté là, on était satisfait à vivre dans notre position en Christ, disant « un jour, on va vivre la gloire de Dieu ». Mais si vous dites ça, vous êtes sauvés quand même et vous allez vous rendre au ciel quand même. Mais vous passez à côté des jours de bénédiction sur la terre que Dieu en réserve pour vous, que Dieu en réserve pour moi. Pour vivre une révolution dans la francophonie et au Québec, nous ne pouvons plus offrir ce que nous avons offert dans le passé. Si nous offrons seulement la religion et une théologie sans puissance, je peux vous dire que le Québec va être perdu. Mais si nous offrons l'évangile de la parole de Dieu, la puissance de Dieu, les gens vont se tourner vers le Dieu de la Bible. C'est vrai. Une des choses, nous avons prêché le Dieu de la Bible, mais divorcé de l'expérience biblique. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est dire, Seigneur, on veut te recevoir dans toute l'expression de qui tu es. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et on veut le recevoir. Mais pour le recevoir vraiment, nous devons être matures et être capables de gérer ce qu'il va nous donner et avoir la maturité spirituelle, la maturité aussi au niveau de la compréhension biblique pour savoir comment opérer dans ces choses-là. Si nous sommes immatures, on va avoir un problème, il va y avoir du désordre. Mais comme on enseignait sur les dons du Saint-Esprit pendant, je crois, peut-être 5 semaines, on enseignait sur l'école de l'Esprit, on a vraiment établi une fondation biblique. Si vous n'étiez pas là, je vais vous encourager à aller l'écouter. Vous avez besoin de comprendre ces choses-là. Mais le Seigneur, il veut faire quelque chose de différent pour rejoindre le Québec. Et on a besoin de plus de lui. Donc, une des choses dans Deutéronome 29, 29, ça dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Ce que Dieu va vous révéler sont à vous, enfants de Dieu. » Quand Dieu vous parle et vous donne une révélation personnelle, cette révélation-là vous appartient. C'est un cadeau que Dieu vous donne. Amen. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 4 à 5, ici on voit l'apôtre Paul qui nous parle un petit peu de son ministère. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5, « Ma parole et ma prédication » Ici, souvent, vous dites « les prêches ». Mais lui, c'est « ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je vais le relire ici. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Croyez-vous la parole de Dieu aujourd'hui? Je vais vous lire des notes que j'ai écrites ici, parce que je voulais être sûr que vous puissiez comprendre. Il est impossible de revivre spirituellement en s'attachant simplement à un système de croyances intellectuelles. Dieu n'a pas promis qu'on vivrait la vie en abondance lorsque nous vivions seulement dans nos têtes. Impossible. Si vous marchez dans votre vie chrétienne et vous êtes malheureux, vous avez besoin de revivre aujourd'hui une expérience avec Dieu. Dieu ne nous appelle pas à vivre simplement dans un système de croyances. Il y a beaucoup de croyances dans le monde et il ne change pas le monde. Amen. Il y a des gens qui se rassemblent à un autre lieu, dans cette place. Ils ont d'autres croyances, mais ces croyances-là ne changent pas le monde. Ce que nous avons besoin, c'est la présence de Dieu. Nous avons réduit l'Évangile à des doctrines, divorçant l'Évangile de l'expérience de sa puissance. Savez-vous pourquoi? Dans la pensée gréco-romaine à l'époque, on voit que ce qui est compris intellectuellement, c'est ça qu'on peut croire. Mais dans la pensée juive, nous pouvons croire sans comprendre. Nous pouvons croire sans tout comprendre, mais croire parce que Dieu l'a dit. Et on peut le croire dans notre esprit sans le comprendre même dans notre tête. Et c'est différent pour nous parce qu'on est tellement habitué à comprendre toutes les choses intellectuellement. Mais il y a des choses, des fois, dans mon esprit, je comprends et le Seigneur m'enseigne plus tard. Et là, je comprends des choses. Mais le Seigneur veut faire des grandes choses parmi nous. Vous savez, une des choses, l'expérience de l'Évangile, c'est une puissance surnaturelle. Moi, une personne qui m'a inspiré beaucoup, c'est la missionnaire Heidi Baker, qui a reçu une parole prophétique, comme quoi elle était pour prier pour les malades et elle était pour voir les malades guéris. Elle avait reçu une parole comme quoi elle était pour prier pour les aveugles et les aveugles étaient pour voir. Alors, elle était là en mission avec son mari, mais elle savait déjà que Dieu l'appelait là-bas. Et comme elle était en mission, pendant un an, elle priait pour les aveugles sans résultat. Un an sans résultat. Elle priait, zéro fruit à chaque fois. Combien d'entre vous pensez que c'est réjouissant? C'est pas réjouissant. Elle aurait pu dire, ben là, j'ai pas de fruit, c'est faux, ça marche pas, cette chose-là, et arrêter. Mais elle était persévérante. Elle avait reçu une parole dans son cœur, et elle savait que la puissance de Dieu était pour se manifester. Souvent, quand on ne voit pas le summum de la gloire, c'est parce qu'on s'est découragé juste avant d'arriver à la fin, juste avant d'arriver à la ligne de fin, si on veut, avant d'arriver à la victoire. On se décourage parce qu'on se laisse limiter par ce qu'on peut voir par nos yeux naturels. Mais le Seigneur a agi dans le ministère de cette femme-là, qui a eu tellement un désir de voir la puissance de Dieu qu'elle s'est abandonnée à Dieu dans la louange et l'adoration. Et la première fois qu'elle a vu un miracle, le Seigneur lui a montré comment faire. C'était en laissant l'amour de Dieu couler à travers sa vie. Avant, elle priait pour les gens. Elle priait. Elle avait zéro fruit. Mais un jour, elle a vu une femme qui était aveugle. En passant, le nom de Heidi Baker dans son pays, c'est Mama Ida. Mama Ida, c'est le nom que les enfants, les orphelins là-bas, ils l'appellent comme ça. Et puis, elle a vu une femme qui avait les yeux tout blancs. Et puis là, elle était tellement remplie de compassion. L'amour de Dieu est venu tellement en elle. Elle a pris cette femme-là dans ses bras. Et là, quand elle a laissé la femme a commencé à avoir les yeux gris. Après les yeux bruns, elle a été guérie. Mama Ida. Le nom de cette femme qui a été guérie, c'était Mama Ida. Elle a trouvé ça vraiment spécial. Le lendemain, Heidi Baker a encore prié pour une autre femme qui était aveugle. Encore une fois, elle a laissé l'amour de Dieu couler à travers elle. Et encore une fois, la femme a été guérie, une autre aveugle, qui s'appelait, elle aussi, Mama Ida. Troisième journée. C'est 3 jours consécutifs. Pensez-y, pendant 1 an, rien, ça donnait rien quand elle priait. Troisième journée, elle prie pour une troisième femme. La même situation, encore une fois, identique. Et elle aussi s'appelait Mama Ida. Là, elle dit au Seigneur, elle dit, Seigneur, mais c'est quoi cette chose? Montre-moi, pourquoi tu fais ça? Il doit avoir quelque chose ici que je comprends pas. Et le Seigneur lui dit, il dit, t'es aveugle. Elle dit, mais non, Seigneur, je suis pas aveugle, je vois très bien. Il dit, t'es aveugle. Elle dit, non, Seigneur, je vois très bien. T'es aveugle. Et par la suite, elle dit, OK, Seigneur, je suis aveugle, mais à ce moment-là, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Ouvre mes yeux, Seigneur Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il l'appelait à aller aux États-Unis dans le tiers monde spirituel. Ça, c'est chez nous. C'est chez nous. Dieu l'a envoyé et venir, je pense, un tiers de son temps dans le tiers monde spirituel. Parce que Dieu l'appelait à démontrer à l'Église que nous devons retomber en amour avec Dieu et le louer et l'adorer. Et quand on voit cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait pendant une demi-heure, avant même de prêcher, elle fait juste louer et adorer son Dieu, et Dieu, le Saint-Esprit, visite la place. On voit littéralement, quand on était à Phoenix, la semaine passée, une semaine et demie peut-être, elle était là, on a dû partir très de bonne heure, parce que notre avion quittait et tout ça. On a pu juste avoir une demi-heure dans cette réunion-là avec elle. Mais pendant ce temps-là, la gloire de Dieu est descendue. La clé pour vivre la gloire et la puissance, ce n'est pas d'étudier plus de livres et de dire pourquoi telles personnes sont guéries, pourquoi telles personnes ne sont pas guéries. C'est sûr, on peut étudier, là. Je ne dis pas qu'on ne veut pas étudier. Mais la clé à la puissance de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu a choisi cette femme-là pour nous enseigner tout simplement qu'on doit retomber en amour avec Jésus. On doit retomber en amour avec Jésus et le poursuivre, chercher sa face. Tant et aussi longtemps qu'on ne recherche pas sa face et qu'on ne recherche pas vraiment à vivre cet amour comme une expérience qui est OK, que c'est bien même. On ne vivra pas la splendeur de sa gloire. Mais si vous devenez aujourd'hui vraiment un amoureux de Dieu, vous allez vivre le ciel sur la terre. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Et c'est le cœur de Dieu pour ses enfants aujourd'hui. Je peux vous dire, Dieu veut sauver la francophonie. Mais Dieu ne sauvera pas la francophonie dans notre méthode que nous avons présentement. Ce n'est pas par notre méthode. Ce n'est pas la façon qu'on fait en ce moment qui va gagner les gens. La façon que les gens vont être touchés, c'est lorsqu'ils vont avoir une manifestation de l'amour de Dieu. Quand on va prêcher aux gens par l'amour, quand on va simplement recevoir quelqu'un, et même peut-être il y a quelqu'un dans le péché, peut-être le Seigneur va vous donner un cœur pour parler à une personne que peut-être c'est évident que la personne est dans le péché, et Dieu vous dira, dis rien, fais juste aimer en ce moment. J'ai vu un témoignage. Un homme qui était avec Heidi Baker, cette femme-là, est en train de faire du ministère auprès d'une musulmane. Et elle commence à aimer cette femme-là, lui dire que « Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et il y avait un pasteur évangélique avec elle qui dit, mais là, vous savez, vous êtes pécheresse, vous devez vous repentir, vous devez mettre votre vie en règle, madame. Et là, Heidi était tellement attristée dans son esprit, parce qu'au lieu de laisser l'amour de Dieu couler, c'est un esprit religieux qui s'en venait, tout défaire. Mais le Seigneur, il veut se servir de nous comme des éponges de son amour. Des éponges de son amour. Mais pour être imbibé de son amour, il faut passer du temps avec lui, frères et sœurs. Il faut passer du temps dans sa présence. Et comme nous sommes dans sa présence, il nous remplit de son esprit. Vous savez, on a beaucoup critiqué l'expérience chrétienne. On a dit, il y a des gens qui sont guidés par l'expérience. Et on dit que c'est négatif, c'est un négatif. Mais c'est faux. Ce n'est pas mauvais de vivre cette expérience avec Dieu. De vivre cette expérience qu'on ressent. Dieu nous a créés avec des émotions, enfants de Dieu. Dieu nous a créés avec des émotions. C'est correct de pleurer. C'est correct de rire. C'est correct de ressentir sa présence et d'exprimer cette louange, cet amour au Seigneur. C'est correct et c'est normal. Quand vous allez voir vos enfants jouent au soccer ou peu importe au hockey, vous entendez les personnes dire « Allez, vas-y! » Et les gens vont exprimer des choses, mais à l'église, souvent, c'est comme « Non, faut se taire, faut être silencieux, faut être sobre. » Mais on a une grande raison de célébrer notre Dieu. Il nous a transportés dans son royaume, le royaume de son Fils, de son amour. Amen. Elle a persévéré pendant un an à prier. Et après, le Seigneur lui a montré comment faire. Et aujourd'hui, moi, je vais vous encourager, persévérez dans le chemin de Dieu. Persévérez. Et permettez au Seigneur de vous remplir. Permettez au Seigneur de vous toucher. Le Seigneur, aujourd'hui, veut nous donner cette faim surnaturelle. Peut-être vous dites, moi, je ressens pas la faim. On dirait que je suis desséché. On dirait que je sais pas, mais on dirait que j'ai pas ce désir-là de m'approcher de Dieu. Peut-être vous êtes là aujourd'hui. Savez-vous que ça peut changer? Si vous demandez au Seigneur, « Seigneur, donne-moi cette soif. J'ai besoin de retrouver cette soif. » Je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 6 et le verset 47. On va parler de la faim et de la soif spirituelle. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une soif pour le surnaturel. Il y a une soif pour le spirituel. Nos enfants se tournent vers Harry Potter. Et les films, je sais même pas c'est quoi, mais les loups-garous, ces choses-là, vampires, les gens se tournent vers ces choses occultes parce qu'il y a une soif dans le monde pour vivre cette expérience surnaturelle. Mais vous, enfants de Dieu, vous pouvez démontrer l'expérience surnaturelle, mais dans le royaume de la lumière. Au lieu d'être dans le royaume des ténèbres, vous pouvez être l'instrument de Dieu où votre vie va être éparpillée sur les gens. Lorsque les gens vont vous rencontrer, ils vont savoir qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils vont dire, mais il y a quelque chose sur ta vie, il y a quelque chose que je peux voir sur toi, c'est quoi au juste? Et vous pourrez dire, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Le Seigneur veut vous toucher aujourd'hui. Le Seigneur veut vous guérir. Vous savez, j'ai reçu un courriel de mon amie Faitine. Elle m'envoie un courriel. Elle dit, elle était en train de magasiner pour un lit. Vous savez, elle vient de se marier. V'là 10 jours, v'là 11 jours maintenant. Et puis, elle est en train de magasiner pour un matelas. Et même au magasin, le Seigneur s'est servi d'elle. Elle a remarqué que le vendeur boitait. Il y avait une jambe plus courte que l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit au monsieur, au vendeur? Elle a dit, monsieur, est-ce que je pourrais prier pour vous, que vous soyez guéri? Oui. Elle dit, vous pouvez vous asseoir. Il s'assit sur le lit, le matelas. Elle prie pour lui. Sa jambe pousse et est guérie. Ça, c'est avant-hier. Gloire à Dieu. Et là, le monsieur, il dit, je dois réapprendre à marcher. Il dit, j'ai jamais marché comme ça. C'est vraiment spécial. Pourquoi pas vous, enfant de Dieu? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Je vous pose la question, pourquoi pas vous? Amen. On doit avoir cette faim, le pain vivant. Dans Jean 6, 47, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Jésus a dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Gloire à Dieu. Il est le pain de vie. Dieu nous appelle à l'avoir en dedans de nous, pas juste dans notre tête, mais qu'il fasse partie de qui nous sommes. Vous savez, dans Jean 18, verset 11, Jésus a dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, « Ne boirai-je la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Jésus était dans le jardin, puis on sait qu'il a bu une coupe de souffrance. Il a bu cette coupe de souffrance afin qu'on puisse boire de cette coupe de la vie éternelle, de son esprit. Dans Hébreux 4, 12, ça dit « La parole de Dieu est vivante et efficace. » La parole de Dieu. Et nous savons dans Jean 1, 1 que Jésus est la parole de Dieu. Et dans Jean 1, 14, ça nous parle que Jésus a été manifesté, a été fait chair. Nous savons que cette parole est vivante. Mais enfant de Dieu, on doit approcher la parole de Dieu comme plus qu'un livre de récits, comme plus qu'un simple livre avec des histoires dans le passé. Mais nous devons s'approcher de cette parole comme étant littéralement cette parole vivante en nous. Et lorsque nous mangeons de cette parole, et lorsque nous nous nourrissons en Jésus, nous allons littéralement porter les fruits du Seigneur Jésus dans ce monde. Amen. Mais il faut avoir cette faim pour la parole et cette soif pour l'eau vive. Dans Jean 7, 37, ça dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a été glorifié, enfant de Dieu. L'Esprit a été donné. Et cette parole est pour vous et pour vos enfants. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avez-vous soif, enfant de Dieu? Avez-vous soif pour plus de lui dans vos vies? Nous avons été transportés dans un nouveau royaume, dans le royaume de son Fils. Et nous avons accès à cette eau vive en nous, qui coule en nous. Pas juste dans nos têtes et par les choses qu'on peut comprendre, mais en nous, son Esprit. Ça parle ici au verset 39. Il dit cela de l'Esprit. C'est correct de vivre l'Esprit aujourd'hui, enfant de Dieu. Nous devons aller à la recherche de cette nourriture spirituelle-là. Une des choses que je dois vous dire, une loi spirituelle que je vais vous donner, c'est le trésor est trouvé par celui qui cherche. C'est un principe du royaume de Dieu. Le trésor est trouvé par celui qui cherche. Celui qui ne recherche pas plus de la présence de Dieu ne vivra pas plus de la présence de Dieu. Mais si vous êtes à la recherche pour plus de Dieu, vous allez recevoir plus de Dieu. Amen. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous dites, mais pourquoi Dieu veut cacher des choses? Pourquoi Dieu veut cacher sa gloire? Vous allez comprendre. Jérémie 33, verset 3, il est écrit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Des choses cachées. Matthieu 13, verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand Jésus parlait, ses auditeurs avaient des oreilles, n'est-ce pas? Mais il parlait ici à l'audition spirituelle. Peut-être ici, vous avez tous cette audition-là. Peut-être vous avez tous ces oreilles pour entendre. C'est mon cœur aujourd'hui. J'espère que vous avez ces oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Mais ici, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui disent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit ça? Pour vous vous allez recevoir le mystère, la révélation des mystères du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Pour vous, ça va être révélé. Mais pas pour eux. Pourquoi pensez-vous? Pourquoi pensez-vous qu'il y avait cette différence? Est-ce que Dieu aimait plus ses apôtres que les autres personnes? Non. Matthieu 13, verset 44, encore en parlant du royaume des cieux. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux, on ne parle pas du royaume terrestre, on parle du royaume des cieux, le royaume céleste, le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, en parlant du trésor, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Quand il a découvert le trésor de ce royaume caché, le royaume des cieux, il veut tout vendre pour l'avoir. C'est une parabole ici, c'est que on aime tellement, on est tellement passionné des choses de Dieu, du royaume céleste, que c'est notre priorité dans notre vie. Je vais vous donner la réponse. Pourquoi seulement certaines personnes vont recevoir la révélation du royaume des cieux aujourd'hui et dans les jours à venir? À cause de cette raison, dans Matthieu 7, verset 6, Jésus a dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Voyez-vous, moi, j'ai déjà partagé des choses que j'ai vécues avec Dieu, avec mon Dieu, dans l'intimité. Des choses surnaturelles que j'ai vécues avec Dieu, dans des moments d'intercession, des moments où on prie et où on oublie le temps, où on oublie que même on a l'horloge. Vous savez, pendant un temps, je priais, j'étais en Alberta, juste avant de revenir ici au Québec, et je devais vraiment chercher la face de Dieu. Et je me mettais à prier, et après, je pouvais voir... Des fois, je pouvais regarder la montre et dire, « Il y a déjà 8 heures de passé. Comment ça? 8 heures, comment ça j'ai pu faire ça? » C'est parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par le temps, frères et sœurs. Alors, quand on rentre dans cette dimension de l'intimité, de cette dimension du surnaturel avec Dieu, on oublie le temps. On perd le temps, la notion du temps. On rentre dans cette dimension de la présence de Dieu. Et c'est disponible pour nous, enfants de Dieu. C'est disponible pour nous. C'est disponible pour nous. Mais une des choses, c'est dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. J'ai partagé des choses à la radio. Un petit peu, moi, j'étais innocent parce que je pensais que tout le monde avait soif pour plus de Dieu. Et je voulais que les gens puissent recevoir plus. C'était mon cœur, un prédicateur à la radio innocent, pensant que les gens voulaient plus de Dieu. Mais les gens ne voulaient pas plus de Dieu. Ils voulaient plus de la religion. Et j'ai été enlevé de la radio. Pendant 2 semaines, j'étais à la radio. C'était des choses. Écoutez, les gens, les chrétiens avaient soif, mais les bergers, dans cette place, ont dit, on veut rien savoir. On doit faire attention à ce qu'on reçoit de Dieu avant de le livrer publiquement, même avant de le livrer avec vos frères et vos sœurs. Parce que quand vous vivez des moments bénis avec Dieu, puis là, vous voulez partager, vous aimez les gens, vous voulez qu'ils puissent recevoir eux aussi ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans le surnaturel. Il y a beaucoup de croyants qui ne croient pas en Dieu. Réalisez-vous ça ce matin. Il y a beaucoup de croyants qui ne croient pas la parole de Dieu et qui ne croient pas qu'on peut vivre une expérience avec Dieu. Faites attention à ce que vous dites aux gens, parce que là, ils vont juste vouloir vous déchirer par la suite, ruiner votre réputation, vous attaquer, se moquer de vous. Mais vous, vous avez un cœur pour Dieu, vous avez un cœur pour eux. Mais ceux qui ont vraiment soif, ceux qui sont tannés, qui sont épuisés, qui disent « Seigneur, je suis plus capable de mes propres forces, j'ai besoin d'une touche de toi, tu es vivant, puis je veux cette touche vivante en moi. » Par la soif, le Saint-Esprit va les attirer à vous. Et là, vous allez avoir cette opportunité de dire, ce que j'ai vécu, toi aussi tu peux le vivre. Des moments dans sa bénédiction, des moments dans sa présence, toi aussi tu peux le vivre. Toi aussi tu peux être touché par lui. Toi aussi tu peux recevoir cette caresse du Père. On peut vivre cette vie chrétienne. On peut recevoir son amour à chaque jour. Être ses éponges pour lui, ses éponges de cet amour. Donc, il faut protéger les choses qu'on reçoit. Amen. On doit rechercher sa présence et sa gloire. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Éphésiens 2, 6, ça dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Savez-vous que vous êtes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes? Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble. Avez-vous été ressuscité avec Jésus-Christ? Amen. Donc, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pouvez-vous vous voir là, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ? Pouvez-vous vous voir pendant quelque temps? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais là, j'ai une bonne nouvelle. Si vous croyez ça, c'est si vous croyez la Bible. Colossiens 3, 1, ça dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez, dites chercher. Dites chercher. Vous venez de le dire. Cherchez. Les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous êtes assis à la droite de Dieu, vous êtes assis avec Christ. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Pour vivre le surnaturel aujourd'hui, on a besoin de recevoir du ciel. Amen. Je vous lance ça aujourd'hui, là, mais on va prendre plus de temps. Mais le ciel doit devenir plus une réalité pour nous. Les choses célestes doivent devenir plus une réalité pour nous. Le Seigneur va se révéler à nous. Comment? Comment est-ce qu'on peut rechercher les choses d'en haut, comme il est écrit dans la parole? Bien, dans Éphésiens, ça nous dit comment? L'apôtre Paul a prié pour nous. Moi, je suis content que Dieu nous dit toujours, il nous dit toujours comment faire. Éphésiens chapitre 1, j'aimerais ça vous inviter à tourner là. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 19. Je réalise ce matin que je suis un petit peu plus tranquille. Je vous fais peut-être moins rire ce matin. Mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite pour vous, là? C'est qu'on puisse avoir cette soif ensemble. Moi, je peux avoir soif de Dieu, je peux prier chez nous, avoir soif. Mais si vous n'avez pas soif, on va être limité, enfant de Dieu. On va être limité. Dieu peut faire des grandes choses ici. Il peut faire des grandes choses. Et il veut, absolument. Mais là, la question, est-ce que vous voulez? Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 19. Ça dit, « Je ne cesse de rendre grâce. » C'est l'apôtre Paul qui prie ici. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, » dites « le Père de gloire », vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Ici, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance dans l'être intérieur. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de vos têtes. Non, les yeux de votre cœur. Si on parle d'une vision spirituelle. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, la richesse de la gloire, on parle de la gloire, de la présence de Dieu, la richesse de la présence de Dieu, de son héritage, qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prie pour l'Église à Éphèse. C'est une prière, une bonne prière. Je vais vous inviter à la prier chez vous. Priez cette prière chez vous. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation, c'est pas juste intellectuel ici, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ça vient. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de mon cœur. Ça ouvre les yeux de mon cœur que je puisse voir spirituellement. Pour que je puisse savoir quelle espérance qui s'attache à mon appel. Quelle est la richesse de la gloire de mon héritage. Amen. Qu'il réserve aux saints. De son héritage qu'il réserve à moi. Et qu'elle est envers nous. Envers moi-même qui crois, l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. C'est pas juste des mots sur une page, enfant de Dieu. C'est une chose pour nous. Si on le veut. Vous savez, l'apôtre Paul a vécu une expérience assez spéciale. Vous pourrez prendre ça en note. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Est-ce que vous me donnez encore quelques minutes? Vous savez comment Jésus opérait sur la terre avant de guérir les malades, avant de faire des choses surnaturelles? Il nous dit comment? Dans Jean 5, verset 19. Et c'est la même chose qu'on peut faire, nous, enfants de Dieu. Si les yeux de nos cœurs sont ouverts, si on passe du temps avec Dieu et on prie, Dieu, dans ces moments-là, va ouvrir les yeux de nos cœurs, il va nous donner une vision spirituelle et on va savoir quoi faire, comment faire. Dans Jean 5, 19, il est écrit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passait? Dieu lui révélait des choses. Et Jésus le voyait et le faisait. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Imaginez, on va faire encore des plus grandes choses. Mais comment qu'on fait? Jésus, comment est-ce qu'on peut faire? L'apôtre Paul nous a donné la réponse. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Remarquez ici, le mot charité, ça nous parle de l'amour. Recherchez la charité. Recherchez l'amour. C'est ça que Heidi Baker a fait. Elle recherchait plus de son amour. À vraiment être l'instrument de Dieu. Recherchez la charité. Aspirez. Dites aspirez. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Là, on vient de marcher sur des orteils. Voyez-vous, cette église rayonnante, cette église sans tache que Seigneur Jésus va revenir chercher, c'est une église qui recherche la charité et qui aspire aux dons spirituels. Dans la Bible du Sommeur, ça dit « Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit ». Et surtout au don de la prophétie. Ah, mais c'est spécial, mais c'est quoi le rapport? Comprenez-vous? Une des choses dans l'Apocalypse 9, 10, ça dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Une des choses qu'on doit comprendre, comme nous marchons avec Jésus-Christ en nous, qui nous habite, l'esprit de prophétie est en nous. Ça ne veut pas dire qu'on fait juste donner des prophéties à l'Église, mais c'est que notre vie, c'est vraiment cette vie prophétique. Partout où on se promène, on peut laisser le Saint-Esprit couler à travers nos vies, donner une parole de connaissance à notre serveuse. On peut donner une parole de sagesse à notre mécanicien. Partout où on se promène, on peut être l'instrument de Dieu. Partout, l'esprit de prophétie est en nous. On est une personne imbibée de l'amour de Dieu et on recherche la manifestation du Saint-Esprit à travers nos vies, qu'on laisse couler à travers nos vies. Quand on dit manifestation, rechercher cette manifestation, c'est pas simplement une expression dans un dimanche matin. C'est pas une manifestation des choses dans la chair non plus, comme des fois on a vu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu qui coule à travers nous. Parce que Dieu est amour, Dieu est esprit. Si on est vraiment porteur de cet esprit, si nous sommes vraiment le temple du Saint-Esprit, nous allons être le temple de son amour envers les gens. Amen. Ça, c'est merveilleux. Il y en a des gens qui vont dire, oui, mais j'ai peur, moi, du surnaturel. J'ai rencontré une femme qui dit, « Moi, je ne veux pas entendre la voix de Dieu, j'ai trop peur du surnaturel. J'ai peur d'entendre la voix de Dieu. » Mais moi, je peux vous dire, un Jésus sans puissance, un Jésus qui n'est pas vivant, ne m'intéresse pas, enfant de Dieu. Ne m'intéresse pas. Un Jésus mort, sans puissance, ne m'intéresse pas. Et vous, enfant de Dieu, un Jésus juste dans un récit, mais on veut un Jésus vivant, un Jésus qui peut couler à travers nos vies. Amen. Si vous avez peur du surnaturel aujourd'hui, je peux vous donner cette sécurité. Matthieu 7, 9 à 11, je ne lirai pas. Mais il donne de bonnes choses, ben je vais lire. Matthieu 7, 9 à 11, ça dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » On peut demander du pain à notre Seigneur. « Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si vous demandez au Seigneur, Seigneur Jésus, je demande pour plus de ton Saint-Esprit dans ma vie, je peux vous garantir qu'il ne vous enverra pas un démon. On doit balayer cette pensée-là de nos églises. Les gens, les chrétiens ont peur du surnaturel parce qu'ils ont peur d'avoir des démons. Mais c'est stupide, enfant de Dieu. C'est stupide, parce que notre Dieu est plus puissant que Satan. Amen! Si vous dites, Seigneur, je veux plus de ton amour, il vous enverra pas un démon et il ne permettra pas un démon à venir en vous. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alors, si j'ai soif pour plus de Dieu, savez-vous ce que je vais recevoir? Plus de lui. Plus de son amour. Mais Satan ne veut pas que vous puissiez avoir plus de lui. C'est pour ça qu'il envoie la crainte dans l'Église. Il envoie des pensées de crainte. Ah, c'est des démons. Il envoie de la crainte. Comme ça, vous ne recevrez pas plus. Alors, vous allez vivre votre vie chrétienne desséchée, découragée. Mais qu'est-ce qui se passe si on reçoit plus de lui? On commence à vivre. On va vivre et on va recevoir plus de lui. Et là, on va toucher plus de vie. Et là, le royaume de l'ennemi va reculer. Et le royaume de Dieu va avancer parmi nous. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Jacques 1:17, c'est par toute grâce excellente et tout don parfait descendre d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Ce que le Seigneur veut faire, il veut appuyer notre témoignage par des signes qui vont nous accompagner. On ne court pas après les signes, on court après Jésus. Mais comme on court après lui, les signes vont être là pour confirmer. Je vous donne la parole, Hébreux 2. 2 à 4, ça dit, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, ou une si grande délivrance, qui, annoncée d'abord par le Seigneur, nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voyez-vous, Dieu appuie son témoignage par les dons du Saint-Esprit. Dieu vous appelle à être les instruments, à être ses instruments ici dans la ville. Partout où vous vous promenez, vous êtes comme, comment qu'on dit, paintbrush, comment qu'on dit? Un pinceau, merci pour ce mot scientifique. Le pinceau de Dieu. Et partout, votre vie, c'est un chef-d'œuvre. Et les gens peuvent voir la présence de Dieu sur vos vies. En terminant, il me reste juste une page, non? Il me reste moins qu'une page. Mais en terminant, ce matin, comment est-ce qu'on peut vraiment faire là, pour revivre? Quelles sont les conditions? Bien, c'est facile. Toujours, ça revient toujours à la même chose. C'est la foi. Hébreux 4, 2. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Dites rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous pouvez entendre ce message, quitter cette église et ça va vous servir à rien. Ça ne donnera pas de fruits dans vos vies. Mais si vous avez la foi et vous dites, Seigneur, ce qui a été prêché, c'était ta parole, je relâche ma foi pour ça. Et une dernière chose, on veut lui donner notre intérêt, notre attention. Dans Luc 10, 38 à 42, vous pouvez le prendre en note. Ici, on voit Marthe qui était occupée, mais qui passait pas le temps aux pieds de Jésus. Une dernière chose, par nos prières, par notre vie de prière. Quand on a la foi, on lui donne notre attention et là, on prie, qu'est-ce qui se passe? Dieu va se manifester. Acte 4, versets 29 à 33, ça dit, « Maintenant, Seigneur, vois leur menace. » Ça, c'est l'Église primitive qui priait, qui était sur la persécution. « Vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, une grande faveur reposait sur eux tous. La faveur de Dieu, la présence de Dieu reposait sur eux tous. Ils ont osé le demander et Dieu leur a accordé une grande grâce, une puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ce matin, est-ce qu'on veut plus de Dieu? Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange à s'approcher ce matin. Ce matin, c'était d'une simplicité. C'était vraiment simple le message ce matin. Mais savez-vous, on est en masse de gens ici pour chavirer la province du Québec. Peut-être que vous avez du mal à croire ça ce matin. Parce que vous dites, ben j'ai du mal à marcher ma vie chrétienne. Mais aujourd'hui, là, venez boire. Venez boire de son esprit. C'est temps de revivre, enfant de Dieu. Si vous êtes desséché, aujourd'hui, vous faites rempli. Vous faites rempli. Vous faites rempli. C'est ça que le Seigneur veut pour vous. Il veut vous remplir ce matin. Je ne sais pas, peut-être que je me suis mal exprimé. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas communiqué la passion pour le Seigneur pour vous aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être ça l'a resté dans votre tête. Mais ma prière, c'est que ça descende dans votre cœur. Que vous puissiez vraiment avoir cette soif. Je suis sérieux, enfant de Dieu. Si on a cette soif de Dieu, on ne sera plus jamais pareil. C'est vrai. Si on a soif, enfant de Dieu, si on a soif, il n'y a pas de différence entre vous et Heidi Baker aujourd'hui. J'ai parlé d'elle, j'ai juste donné son témoignage rapidement, mais il n'y a pas de différence entre vous et elle. Savez-vous que dans son ministère, ils ont ressuscité d'entre les morts environ 80 personnes? Jésus l'a dit dans sa parole, n'est-ce pas? Qu'on était pour faire des plus grandes œuvres encore. On était pour le faire, n'est-ce pas? Il dit, guérissez les malades, chassez des démons, ressuscitez les morts. Combien d'entre vous, vous avez ressuscité des morts cette semaine? Moi, je ne l'ai jamais fait. Ça veut dire qu'il me reste à faire ça. Je ne l'ai pas fait encore. Est-ce que je suis stationné là? Puis, oh, Seigneur ne veut pas. Non. Moi, là, tout ce que Dieu dit, il faut que ça soit oui et amen. Il faut que je sois capable de le vivre. Moi, je veux être un adorateur de Dieu. Je veux être un amoureux de Dieu. C'est juste ça qui compte, enfant de Dieu. Juste ça qui compte. L'équipe de la louange vous fait venir. Je vous attends. Je vais continuer jusqu'à temps que vous êtes là. Non, mais c'est vrai. Si on peut être des amoureux de Dieu, ce matin, moi, je vais vous inviter à le redécouvrir. Je vais vous inviter ce matin. Pendant qu'on penche nos têtes, je vais vous inviter dans la prière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais prier pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, moi, je suis incapable de leur donner ce désir surnaturel pour plus de toi. Je suis incapable, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es capable de leur donner cette soif pour plus de ton esprit, pour plus de ta puissance, Seigneur Jésus. Je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, je prie que tu fasses de nous des amoureux de toi, qu'on puisse vraiment t'aimer, qu'on puisse passer nos journées à penser à toi, à te rechercher. Lorsqu'on est à l'épicerie, Seigneur, je prie que tu puisses être dans nos pensées. Lorsqu'on se promène en ville, peu importe, on est dans nos autos, Seigneur, que nos pensées puissent revenir à toi, qu'on puisse te rechercher, Seigneur, que tu puisses te manifester dans nos vies, dans nos corps, Seigneur Jésus, dans nos esprits, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas appelés à vivre une vie terre à terre, dans une vie juste intellectuelle. Mais, Seigneur, nous sommes des esprits. Et toi, Seigneur, tu nous habites aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu fasses de nous vraiment ces éponges de ton amour, les éponges de ta puissance. Et Seigneur, ceux qui ont de la misère à croire aujourd'hui, qui disent « c'est impossible pour moi », je viens contre le mensonge, je viens contre tout esprit qui vient séduire, qui veut voler cette parole. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, que cette parole a été semée dans des cœurs et j'appelle la récolte dans ces cœurs. J'appelle la récolte de foi au nom de Jésus. Que ces gens vont se lever, que mes frères et mes sœurs vont se lever dans leur foi et dire « Oui, Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux pas de la religion. Je veux cette relation vivante, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Oui, Seigneur, merci pour cette audace que tu me donnes. Merci parce que je peux marcher dans la foi. Je peux prier pour les malades. Je peux être dans un magasin et tu peux te servir de moi. Et Seigneur, oui, je crois que tu peux te servir de moi pour faire une révolution dans cette ville, une révolution dans cette province. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour mes frères et mes sœurs. Merci ce matin de nous visiter, Seigneur. Tous ceux qui ont soif, je vais vous demander de vous lever. Si vous avez soif pour plus de lui, et demandez-lui ce matin. Seigneur, on est ici pour plus, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, on a besoin plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Demandez-lui ce matin. Demandez-lui si vous êtes tanné de la religion, si vous êtes tanné des choses formelles, et vous voulez plus de son Saint-Esprit, il va vous en donner plus. Je vais inviter Pasteur Jérémy et Annabelle, je vais donner prier pour les gens. Peut-être vous dites, je n'ai jamais été rempli de son Saint-Esprit. Ce matin, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est la journée. du chalut. Aujourd'hui, c'est le temps. Recevons la plénitude de son esprit. Alléluia. Approchez-vous. Ils sont là ce matin pour prier pour vous. Alléluia. Relâchez votre foi pendant qu'on le loue ce matin. Dieu veut faire des choses nouvelles dans vos vies. Des choses nouvelles dans vos vies. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Restons dans un esprit d'adoration, un esprit de louange. Alléluia.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.